Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux relations amoureuses et aux difficultés de construire un couple. On estime qu'en France, une personne sur huit vit seule, un chiffre d'ailleurs qui ne cesse d'augmenter, même si l'image générale du célibat reste négative. Pour la grande majorité de la population, l'amour est la chose la plus importante au monde, mais réussir sa vie de couple est souvent difficile. L'amour ne va pas de soi. En France, plus d'un couple sur trois divorce. Pourtant, réussir sa vie à deux reste un objectif important pour de nombreuses personnes. Alors, comment construire sa vie affective aujourd'hui? Un psy peut-il aider dans ce domaine? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Fabienne Kramer, qui est médecin psychanalyste. Elle vient de publier Solo, No Solo, Quel avenir pour l'amour? C'est aux éditions PUF. Et si vous avez envie de lui poser des questions, d'apporter un témoignage, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Mamadou Mbodj, qui est psychologue à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, on retrouvera la nouvelle chronique nutrition de Stéphane Besançon, qui est directeur général de l'association Santé et Diabète à Bamako, au Mali. Docteur Fabienne Kramer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet absolument passionnant qui intéresse, quelle que soit la culture, l'amour, la vie à deux. Vous donnez ce chiffre du 14%, une personne sur 8 ou sur 7, d'ailleurs on ne sait pas forcément très bien, oui, qui vit seule en France. Est-ce que finalement cette augmentation du célibat vous paraît à peu près inéluctable?
En tout cas, statistiquement, c'est clair. Hein. Je crois que dans les 30 ans, ça a doublé le nombre de célibataires en France.
Et les projections,
sont énormes. Oui, alors, je pense qu'on est encore dans la phase où ça augmente. Et peut-être que l'idée, c'est d'œuvrer dans l'autre sens, en se disant que ça peut être du sens quand même, que le couple, c'est pas une idée qu'il faut abandonner. Je crois que c'est la cellule du couple, c'est la base de la constitution de la plupart des sociétés. C'est là-dessus qu'on se repose, c'est là-dessus on peut être un couple avec des tas de valeurs laïques ou pas. Je crois que c'est très très important de redonner au couple un sens. C'est un peu... C'est pas la mission, mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresse.
Si, c'est en tout cas ce que vous cherchez à faire passer dans ce livre.
C'est ce que j'essaye de faire passer.
Parce l'amour, la vie à deux, ça vaut le coup, mais ça vaut le coup de construire sur le long terme.
Ça vaut le coup de construire sur le long terme, mais alors, je pense que la génération actuelle, qui est celle donc qui est la plus solo, a deux problèmes. C'est-à-dire qu'elle est issue de parents qui sont souvent divorcés, de près ou de loin, ils ont été confrontés à ça. Et on n'a peut-être pas, puisque moi je fais partie de la génération des parents, donné à nos enfants le sens de la relation à deux durable. C'est-à-dire, on n'a pas expliqué suffisamment aux enfants pourquoi ça a du sens de vouloir faire ce chemin qui n'est pas évident, qui n'est pas simple, mais qui est, à mon avis, l'essence même de notre humanité. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à aimer dans notre lit, dans notre famille, dans notre couple, quelqu'un qui nous est au départ totalement étranger, comment voulez-vous qu'on vive ensemble?
Voilà. Et toute cette question d'altérité qui est bien dans l'actualité, en fait, en ce moment, bien au cœur de nos préoccupations.
Justement, oui, on a la démonstration en ce moment que l'altérité pose problème. Et moi, ça me semble évident. Si les jeunes couples, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à aimer quelqu'un qui leur est étranger, qui leur proche, enfin, qui devient leur proche, leur conjoint, etc., comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un qui nous soit étranger et éloigné?
Dans ce livre, vous vous êtes effectivement intéressé plus précisément à ce qu'on appelle la génération Y, née entre les années 80 et 2000.
Et 2000, oui.
Pourquoi on parle de cette génération Y?
Alors, je crois que c'est la génération Y. Il y a plusieurs explications sur le Y. C'est parce que c'est une génération qui c'est les enfants des baby boomers, c'est-à-dire ma génération. Et ce sont, après il y a les Y, les X, je suis pas très très.
On continue. Voilà. Alors vous avez voulu pour ce livre, vous avez procédé de façon un peu particulière. Vous avez démarré avec une enquête sur Facebook.
Oui.
Racontez-nous ce que vous avez fait et comment.
Alors j'avais écrit un livre sur le couple, sur la durabilité dans le couple.
Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler.
J'étais venu. C'est déjà une émission que j'avais beaucoup apprécié, je vous remercie de votre invitation. Et donc, suite à ce livre, j'ai dit à mes enfants, vous l'avez lu, mais j'ai une fille qui a 28 ans et un fils qui a 25 ans. Et ils m'ont dit, maman, t'es bien gentille, mais nous, on s'interroge à savoir si déjà on va être en couple. Et là, je suis tombée du placard, quoi. Je me suis dit, mais je connais bien mes enfants, mais je pensais pas qu'ils avaient ça en tête. Donc, du coup, j'ai lancé une annonce sur Facebook en disant que je cherchais des trentenaires, c'était entre 25 et même 30, 40 ans, pour pour répondre à mes questions. Et de proche en proche, j'ai eu une trentaine de personnes, je les remercie d'ailleurs, qui ont tous bien voulu participer, qui ont passé une heure avec moi, soit par téléphone, soit par Skype, soit en face à face, et qui ont répondu à mes questions très sincèrement, et j'ai découvert un monde. J'ai découvert un monde.
Justement, qu'est-ce que vous y avez découvert?
Moi, j'ai découvert
cette question d'abord enfant de finalement beaucoup enfants de divorcés qui finalement n'y croient plus du tout. Voilà, le couple va pas de soi.
J'ai découvert un paradoxe, c'est-à-dire que si vous leur demandez est-ce que vous croyez à l'amour toujours, ils vous disent tous oui. Si vous croyez à la fidélité, ils vous disent tous oui. Et quelque part, à la fois ils y croient et à la fois ils sont totalement désabusés. Ils sont 24 heures sur 24 sur des applications du style de Tinder ou quelque chose comme ça. Ils cherchent l'amour là-dessus. Ils ont l'impression qu'il y a un vivier incroyable. Ils n'arrivent pas à s'arrêter à une personne, à s'y consacrer complètement. Ils ont toujours l'impression qu'il y en a une derrière qui est beaucoup mieux, beaucoup plus rigolote, etc., etc. Ils voudraient être éperdument amoureux, c'est-à-dire ils ont appris l'amour dans Friends. D'ailleurs, je fais une comparaison.
Oui, vous étudiez beaucoup cette série-là de très près.
Parce que je pense que ça leur parle et l'idée c'est de leur parler. Donc ils croient à une sorte d'amour. Pour eux, aimer durablement, ce serait être amoureux durablement. Donc ils cherchent cette solution-là alors que ça n'existe pas. C'est un peu comme, vous savez, tout le monde sait que les régimes amaigrissants ça fonctionne pas, mais tout le monde veut
continuer
à faire.
Voilà. C'est
donc
ça.
C'est pareil au niveau de l'amour. Tout le monde sait qu'on peut pas être amoureux éternellement, mais tout le monde voudrait quand même.
Alors
faire
dites-nous
la démonstration
tout de suite, parce que c'est vraiment ce que vous expliquez dans votre livre entre cette différence entre le sentiment amoureux et l'amour.
Oui, alors j'utilise et Friends. Et la philosophie grecque pour le faire, comme ça il y a un peu de fond. Et puis Friends c'est aussi du fond et ça peut parler
en tout cas
à tout très
monde. Révélateur d'une image de société.
Oui voilà, parce que c'est vraiment extrêmement révélateur. D'ailleurs Friends c'est des solos. Aujourd'hui on vous représente les solos comme des gens très tendance qui vont super bien. Donc dans Friends c'est un peu le cas. Bon, pour en revenir à votre question, je pense que être amoureux c'est ce sentiment de départ, c'est ce qu'on appelle l'éros, c'est-à-dire c'est l'amour qui manque, c'est-à-dire cette sensation qu'on a qui est aussi hormonale. Au départ, hein, pendant 2-3 ans, on est soutenu par une sorte de pulsion hormonale vis-à-vis de l'autre, où on aime ce qui nous manque. C'est-à-dire, plus il nous manque, plus on l'aime. Et voilà. Et après, quand on l'a, c'est-à-dire quand le couple s'établit, etc., ben, on se retrouve face à une difficulté. C'est-à-dire qu'il faudrait passer à un autre amour, qu'on appelle philia, qui est l'amour de ce que l'on a. Et aimer, c'est apprendre à aimer ce que l'on a. C'est sortir de ce système. Mais comme aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus se marier, enfin, on se marie par amour. C'est une évolution. Au départ, on se mariait pour des raisons, par raison. Après, on s'est marié par amour. Et peut-être que maintenant, et ça, on en reparlera peut-être, on se marie peut-être par désir. Donc, ce qui est une nouvelle voie. Mais dans le cadre de se marier par amour, on conçoit pas de ne pas se marier amoureux. Mais être amoureux, ce n'est pas aimer. Donc, c'est là qu'il y a un hiatus. On peut très bien faire du lien avec quelqu'un sans être obligatoirement amoureux. Et quand on est amoureux, ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer derrière. Donc, de toute façon,
il faut savoir passer ce cap-là.
Voilà, il faut passer ce cap-là, il faut en faire un projet et se mettre dans les conditions pour.
Vous allez nous donner des conseils tout au long de cette émission. J'espère. On a Claver qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Claver, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, j'en veux poser une question, à savoir s'il y a un lien entre santé et amour.
Alors avant que vous continuiez, parce que vous avez aussi des choses à nous dire là-dessus, je trouve que votre question est très intéressante et me paraît très pertinente. D'ailleurs, pourquoi nous allons-nous parler de l'amour dans une émission de santé? Franchement, quel est le lien entre les deux, docteur Fabienne Kramer?
Bah, la santé, le bien-être, selon la définition de l'OMS, c'est aussi le bien-être physique et psychologique. Et au niveau de la santé psychologique, c'est clair, l'amour, c'est très très important. Il me semble difficile d'avoir un bien-être psychologique sans avoir de l'amour autour de soi, mais pas uniquement, je parle pas au niveau des couples, il faut aussi que les enfants aient été aimés, etc., etc.
Justement,
donc, ça c'est un lien.
C'est ça, il y a un lien direct avec la santé,
oui,
psychique.
La plupart des dépressions, des connotations qui sont liées à la frustration amoureuse. De même, tous les troubles du comportement alimentaire ont un rapport avec la frustration amoureuse. Donc vraiment, et puis je suis sûre qu'on va découvrir un jour que l'hypertension est liée. Et pourquoi pas, je sais.
Beaucoup
rien.
De choses qui beaucoup sont choses. Physiques et pas forcément voilà. Psychiques. Je voulais juste vous lire la fin du message de Merveille qui nous met un homme aimé. Et qui ne manque pas d'affection, se porte bien mentalement. C'est bien ça que vous êtes en train de nous dire. Donc c'est
une femme aussi. Hein.
Une femme aussi, oui. Un homme, on va le prendre dans son sens générique. D'accord. Claver, donc voilà le lien entre amour et santé. Je crois que vous aviez d'autres choses à nous dire. On vous écoute.
Oui, je l'ai bien noté. Donc si j'ai bien compris, tout va du sens psychologique.
Oui.
Pas uniquement. pas uniquement. Je fais partie des gens qui pensent que le cerveau, si vous voulez, irradie et est relié à tout le reste de notre corps jusqu'au bout de nos orteils. On a un lien. On n'est pas cerveau et corps par ailleurs. Donc, je crois à l'influence du cerveau, en tout cas sur la santé, énormément. Donc, ce n'est pas que psychologique.
C'est aussi la santé physique.
Oui, la santé physique. Le stress, par exemple.
Oui, on vous écoute, Claver.
D'accord. Attends, là, je n'ai pas compris. Maintenant, j'ai trouvé ma situation. Du fait que je me demande comment conjuguer l'amour au moment où je manque pas toujours d'avoir des partenaires, mais des partenaires avec lesquels je suis toujours prêt à perdre, que ça me fait jamais peur d'ailleurs de les quitter ou de les perdre. Donc, je me pose la question à savoir mais comment réellement, pour certains qui souffrent, disons souffrir, parce que aimer vraiment ça fait une souffrance. Pour moi, j'ai toujours l'admiration, j'apprécie toujours la femme, mais pouvoir souffrir, me donner la souffrance, tu me poses la question, bon, comment ça peut... Pourquoi ça ne se passe
pas? Ligne téléphonique n'est pas très bonne, donc c'est très intéressant ce que vous dites. Je vais me permettre aussi de lire le message que vous aviez laissé à Jeanne en préparant cette intervention. Et vous dites, mes partenaires m'ont reproché d'être dure de cœur, de ne pas assez les cajoler. J'ai jamais vraiment réussi à changer. J'ai aussi du plaisir à me retrouver seule. C'est très intéressant ce que pose Claver.
Oui, parce que en fait, ce que pose Claver, c'est de nous dire, est-ce que on peut aimer sans souffrir? Est-ce que c'est le corollaire de l'amour, c'est la souffrance? La réponse, c'est le risque de l'amour. C'est-à-dire que sans prendre le risque de souffrir d'amour, on ne peut pas aimer. Et c'est justement ce que vous décrivez, ce que vous dites que vos partenaires, vous arrivez, Claver, à avoir de l'admiration pour elle, mais vous n'arrivez pas, et vous n'avez pas prononcé le mot, mais je pense que c'est celui que vous vouliez dire, à vous attacher aux gens, puisque vous dites que vous pouvez les perdre sans que ça vous pose problème. Or, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est réussir à s'attacher à quelqu'un qui nous est totalement étranger. C'est pas s'attacher à ses enfants, où il y a le lien de sang qui paraît assez aisé. C'est faire une démarche volontaire pour faire confiance complètement à quelqu'un et accepter de s'y attacher. Et manifestement, pour une raison que j'ignore, Claver a du mal à prendre le risque de l'attachement parce que certainement, vous l'avez sous-entendu, vous avez peur d'en souffrir. On ne fait pas que souffrir d'amour. On prend le risque de souffrir, mais pour autant, on ne fait pas que souffrir. C'est un peu comme l'avion, hein. Quand vous prenez l'avion, vous prenez le risque de tomber. Mais aussi, vous prenez le risque de faire un beau voyage. Et c'est indispensable de prendre l'avion pour faire ce beau voyage. Et ben, c'est un peu ça, l'amour.
Alors, vaut le coup de prendre le risque. C'est ça, vous êtes en train de dire.
Ça vaut le coup de prendre le risque. On a peut-être un masque à gaz, etc. On peut essayer de se sécuriser au maximum. Le jour où l'avion tombe, ça ne sert pas à grand chose. Et ben, en amour, c'est pareil. Il faut accepter de prendre le risque de souffrir pour justement découvrir une autre dimension de la relation à l'autre.
Donc c'est ça le message que vous avez envie de faire placer à Claver. Essayez de prendre le risque.
Oui. Merci de comprendre peut-être pourquoi.
Et aussi pourquoi on a peur.
Tant de mal.
Je voudrais juste justement, merci Claver pour votre intervention, vous lire quelques messages qu'on a reçus sur Facebook, pas mal dans ce sens-là. Un Thaï nous dit, je n'ai plus envie de tomber amoureuse, c'est trop douloureux. Ou bien Ici Fou qui nous dit, l'amour, moi j'en ai plus envie, j'en souffre trop, on dirait que je ne trouverai jamais ma compagne, les filles ne m'aiment jamais. Montrez-nous la stratégie, s'il vous plaît. Beaucoup de gens, quand même, après une rupture amoureuse, blessés, pas envie de se relancer dans une histoire.
Oui, et c'est ce que j'ai constaté dans la génération des trentenaires actuels ou quarantenaires, c'est que, en fin de compte, là où nous, avant, j'avais l'impression qu'on était prêts à prendre des coups et des bosses sans arrêt et à renouveler sans arrêt notre désir d'aimer quelqu'un d'autre, eux, ils ont tendance à aimer un peu sous arnica, je dis, c'est-à-dire qu'ils ont très peur des coups et des bosses. Et après, je me suis dit, il faut que je réfléchisse, que j'essaye de comprendre pourquoi. Et je pense que c'est parce que c'est une génération où la génération d'avant, c'est-à-dire la nôtre, celle des parents, on les a protégés de bien des malheurs, on a essayé de se débrouiller pour qu'ils ne souffrent pas, pour qu'ils soient aimés, c'est des enfants désirés, d'ailleurs c'est une génération qui s'entend très bien avec ses parents. En revanche, on leur a exposé nos douleurs affectives. Et ils ont la sensation que souffrir, c'est souffrir d'amour. Et donc, quand ils sont confrontés à leur premier chagrin d'amour, là où nos grands-parents nous éduquaient en nous disant « Bon, ça fait très mal la première fois, mais c'est pour autant, il faut se relancer », eux, ils disent « Bon, maintenant, j'ai pris un bon coup dans les dents, je vais prendre un peu de distance et je vais garder toujours un pied dehors ». Et du coup, ils ne s'engagent jamais vraiment dans ce risque qui est le risque d'aimer. Et ils n'en ont pas non plus. Alors, il y a une sorte de tiédissement, je dirais. Ils ont appris aussi que on pouvait se séparer sans que, pour autant, on en meure. On meurt plus de chagrin d'amour aujourd'hui. Enfin, certains peut-être. Hein, soyons prudents. Mais globalement, beaucoup moins. Et j'incite personne à mourir de chagrin d'amour d'ailleurs. Mais en revanche, il y a une sorte de tiédissement. On aime moins, on s'engage moins, on a moins peur
pour moins souffrir. Pour moins souffrir. On a Ricardo qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Ricardo, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ricardo.
Bonjour.
Bonjour docteur, bonjour, je suis auditeur de RFI. Ma préoccupation est la suivante. Très souvent, on remarque que certaines relations évoluent naturellement. Pas entre coups d'autres, on a trop à analyser et trop d'efforts à faire. Du coup, j'aimerais savoir si dans une relation, il faut écouter son cœur et ses émotions en premier. Ou plutôt sa tête, c'est ça.
Je trouve assez génial votre question, Ricardo. Et je voudrais du coup, d'ailleurs, Inès nous dit, l'amour foudroie-t-il vraiment? Croyez-vous au coup de foudre? Moi non, dit-elle. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est la tête qui doit diriger le cœur, les émotions?
Alors en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à aimer spontanément les gens dont on tombe amoureux, parce que c'est ça le cœur, c'est les gens pour lesquels on tombe amoureux. Et l'expérience prouve que c'est pas obligatoirement ça. J'aurais tendance à dire, l'idéal dans une relation pour qu'elle dure, c'est de réussir à aimer quelqu'un qui pourrait être son meilleur ami. Donc, moi, si vous tombez amoureux de quelqu'un qui, sur le papier, ne semble pas être quelqu'un que vous pourriez aimer, c'est-à-dire quelqu'un qui est soit pas aimable, soit qui a vraiment des conceptions, des valeurs extrêmement différentes des vôtres, mais que malgré tout, une attirance un peu physique, chimique se met en place, il y a quand même
prudence
à avoir. En revanche, si la personne dont vous tombez amoureux et éperdument amoureux par chance pourrait être aussi votre meilleur ami, si vous êtes totalement à l'aise dans cette relation, c'est-à-dire si vous êtes totalement vous-même, que vous n'êtes pas en train de composer ou en train de trouver des difficultés, bah là c'est le rapport idéal. Mais c'est pas si simple. Et de temps en temps, on se trouve avec un ami. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Il y a un couple américain qui a fait un essai comme ça en se consacrant 40 jours l'un à l'autre. Ils étaient simplement amis. Au final, ils ont réussi à tomber amoureux. Ce qui est intéressant, avec son meilleur ami de temps en temps, ou avec un ami, ça peut être bien de laisser l'attachement naître sans pour autant passer par la case de la folie ou de la passion amoureuse.
Merci en tout cas beaucoup Ricardo pour cette question. Le conseil en fait que vous donnez est très intéressant et très basique. Quand on tombe amoureux, finalement, se poser la question du est-ce que ça pourrait aussi être un ami?
Oui.
Et ça, c'est probablement un bon guide. Question finalement assez basique.
Oui, je crois qu'il faut aimer son meilleur ami, ou en tout cas que la personne qu'on aime puisse être aussi son meilleur ami, parce que ça me semble, j'en suis arrivée à cette conclusion puisque j'ai quand même vu beaucoup de gens et puis moi-même expérimenté pas mal. J'en suis arrivée à cette conclusion que dans la durée, on arrivait mieux à aimer son meilleur ami. Et d'ailleurs, les jeunes, c'est une bonne référence pour eux parce que eux, ils sont très forts en amitié. Ils ont des très bonnes relations amicales, bien mieux que la génération des baby-boomers auparavant. Donc, justement, l'idée, c'est d'aimer son meilleur ami. Mais comme ils sont très exigeants, de temps en temps, le meilleur ami, c'est pas un top modèle. Donc, ça leur semble difficile, par ailleurs, de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas, qui ne réveille pas des émois physiques chez eux.
Il y a autre chose d'intéressant dans votre livre qui m'a marqué, justement, par rapport à ces amitiés. Vous ne conseillez pas forcément de garder comme amis, d'ailleurs, ses ex.
Non.
Oui, même pas du tout, d'ailleurs.
Je l'ai déjà dit une fois à la radio et ça m'a valu une sorte de tollé. Alors, bon, il faut que je sois très prudente quand j'annonce
dans
ça.
Dans la façon de le dire.
Dans la façon de le dire, parce que je voudrais pas contrarier les gens qui gardent des relations avec les ex. Je pense que quand on choisit quelqu'un, ce qui est très important dans une nouvelle relation, si on veut lui donner ses chances, il faut s'y lancer, s'y engager. S'engager, faire le choix de quelqu'un, ça veut dire accepter de ne pas chercher ailleurs. Bon, premièrement, et se consacrer à cette personne. Et dans les renoncements que ça engendre,
si vous voulez bien, je suis vraiment désolée de vous couper la parole, c'est qu'on se retrouve dans 3 minutes juste après les informations, mais on reviendra sur les ex.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses. Comment construire sa vie affective aujourd'hui? Comment un psy peut-il nous aider dans ce domaine? Mon invité, le docteur Fabienne Kramer, est médecin psychanalyste. Elle vient de publier Solo, No Solo, Quel avenir pour l'amour? C'est aux éditions PUF et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Docteur Fabienne Kramer, juste avant les informations, on était en train de parler des ex. Et vous dites, c'est pas une bonne idée de rester trop en contact avec les ex.
Oui, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois que faire le choix de quelqu'un, ça annonce des renoncements. Alors, j'ai une phrase un peu crue pour expliquer un peu clairement ce que je pense. Je me dis qu'il est de toute façon extrêmement difficile de rester ami avec quelqu'un dont on connaît le goût du sexe. Alors, je sais bien, c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et je crois que, ça pourrit les relations, mais de façon des fois très insinueuse, mais ça génère des jalousies. Avec les réseaux sociaux, ça génère des gens qui, au total, passent leur temps à espionner leurs ex, etc. Il faut faire le choix. Quand on fait le choix d'aimer quelqu'un, et si on veut se donner toutes les chances, je conseille de rompre définitivement avec les ex, pour soi, pour pas qu'ils occupent votre esprit, mais aussi pour l'autre, par respect pour l'autre, pour que ça ne complique pas la relation, parce qu'on sait déjà que c'est très compliqué.
Et les réseaux sociaux, là, ne facilitent pas les choses, parce que c'est quand même un moyen un peu de... Oui, c'est affreux. Vous dites, c'est un peu un moyen aussi de surveiller ce que devient l'ex.
Il y a énormément d'espionnage sur les réseaux sociaux. Les gens trouvent des moyens incroyables. Alors ça, c'est le caractère de... C'est ce qu'on appelle le jardin secret. Et je crois qu'il est très, très important aussi de redéfinir avec tout ce monde virtuel qui envahit la chambre à coucher et la relation, de redéfinir où s'arrête l'intimité de l'autre. L'intimité de l'autre, elle s'arrête dès qu'il met un code secret sur son...
Oui.
Dès qu'il tape son
code. On fouille pas ses poches et son portefeuille.
Voilà, on n'utilise pas sa carte bleue. Bref,
Dans le même ordre d'idée, on va pas sur son...
On va pas sur sa page Facebook. Et quand on se sépare, on n'est plus amis, par définition. On se sépare aussi sur Facebook. Et donc, on a à notre disposition uniquement à voir ce qu'il veut bien nous montrer.
Tant qu'on est sur Internet, deux choses. D'abord, j'ai bien aimé la couverture de votre livre. Il y a un dessin de lit, hein, et puis il y a un iPad et puis un iPhone. Voilà, les dangers d'Internet. Vous êtes aussi assez dubitative sur les sites de rencontres, les applications de rencontres. Pourquoi ?
Oui et non. Alors, je pense
j'ai senti que vous étiez dubitatif. Peut-être j'ai mal interprété.
Non, je pense qu'aujourd'hui c'est un passage. Je pense que la plupart des gens se rencontrent en grande partie par ces applications. Donc on peut pas nier que c'est une évolution et qu'il faut faire avec. Mais pour moi, il y a deux types d'applications. Il y a des applications qui vous demandent de remplir une sorte de questionnaire de la personne idéale avec toutes vos exigences et par un logiciel qui est peut-être tout à fait fumeux fait une sorte de match dans l'ordinateur et tac, il vous dit cette personne-là, elle est idéale. Or, jusqu'à preuve du contraire, qui a démontré qu'une personne qui correspondait à tous vos critères de valeur était la personne qui vous convient? C'est absolument pas démontré. En revanche, il y a des nouvelles applications comme Tinder, je veux pas faire de publicité, mais bon, qu'utilisent beaucoup les jeunes. Tinder, c'est une application qui vous permet juste de rencontrer quelqu'un. Ou vous le choisissez sur sa mise, c'est-à-dire sur son profil. Donc ça peut
sur sa bouille,
Oui, ça peut être un peu bizarre, mais... Et il est compatible, c'est-à-dire qu'il a des amis en commun avec vous sur un réseau social et il est à proximité. Et ça, je pense que c'est presque une forme de néo-romantisme parce que quand vous arrivez dans une boîte de nuit ou quand vous arrivez dans un endroit où vous pourriez rencontrer l'amour, c'est ce que vous faites. Vous regardez tout le monde d'un œil comme ça.
Tiens, lui, il a une tête sympa.
Et tac, vous en remarquez un parce qu'il a une tête sympa. Et du coup, vous pouvez envisager quelque chose. Et Tinder, c'est juste ça. Alors, c'est utiliser les réseaux sociaux, enfin, utiliser la technologie actuelle pour juste rencontrer quelqu'un qui est compatible. Mais tout ce qui nous fait des logiciels pour nous dire on vous a trouvé la personne idéale, sauf que comme vous aviez marqué que ça s'arrêtait à 40 ans, désolé, on ne vous le présente pas parce qu'il en a 41,
oui.
Ça me semble tout à fait fumeux.
On a au téléphone Mamadou Mbodj, qui est psychologue, psychothérapeute à Dakar au Sénégal. Mamadou Mbodj, bonjour.
Bonjour, Clérédo.
On était en train de voir avec le docteur Fabienne Kramer que les jeunes ont de plus en plus de difficultés à se mettre en couple en France. Est-ce que vous constatez la même chose au Sénégal ou pas?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a quand même des résistances, mais les fortes pressions familiales et sociales sont là. Et oui. peu de gens parviennent à échapper à ces pressions sociales et familiales pour leur intégration. Ce qui fait donc que le mariage comme consécration d'une union résiste à prime abord à la crise économique et aux mutations de notre société.
C'est ça, il y a quand même une forte pression.
Je ne pose pas de chiffres.
Oui, c'est ça. Il y a une forte pression pour ne pas rester seul.
Voilà, absolument. Maintenant, il y a quand même le corollaire qui est là, c'est-à-dire que il y a les gens se marient, divorcent et se remarient avec une rapidité, une fréquence et une facilité déconcertante. D'accord ? Donc d'un côté, le mariage résiste, mais de l'autre, le corollaire est là, le divorce, les remariages. Alors, il faut savoir quand même que les deux conjoints célibataires, mais une fois mariés également et pendant toute leur vie de couple, sont quand même soumis à l'influence et aux interférences et fortes pressions sociales et familiales de leurs familles respectives, et cela pèse lourdement sur leur vie de couple.
Et comment est-ce qu'on explique les difficultés en amour dans la société sénégalaise ?
Mais écoutez, alors, les femmes cherchent encore le prince charmant, d'accord ?
En France aussi.
Mais il est évoqué, c'est-à-dire que
en France aussi, dit Fabienne Kramer, hein.
Pardon ?
En France aussi, en c'est France universel. Aussi.
Mais voilà.
C'est agaçant.
Mais le contenu qu'elles y mettent, c'est-à-dire que quand il est évoqué, c'est un peu celui qui vient délivrer la jeune femme de la solitude, la tristesse d'un célibat qui n'a que trop duré, des récriminations et humiliations qu'elles vivent dans leur famille tant qu'elles sont encore célibataires. Ce qui fait donc que ce prince charmant est un peu le redresseur de tort. Celui qui vient réparer les torts, essuyer les larmes, un peu le sauveur, qui vient restituer à la femme qu'il va épouser sa dignité en l'élevant au statut de femme mariée, si vous voulez. Alors, le prince charmant mais peut être aussi évoqué plus pour déplorer son absence, c'est-à-dire le manque, comment je pourrais dire, la solitude affective dans laquelle cette femme est recluse, et tous les effets induits par un célibat durable, donc chronique. Je ne sais pas si je me...
Oui, et est-ce que, tout à fait, et vous dites, vous trouvez un peu la même chose?
Oui, moi je pense que les exigences du prince charmant ont beaucoup augmenté, c'est-à-dire que pour devenir un prince charmant, il faut en avoir beaucoup, et en effet, on espère qu'il va nous sauver de quelque chose, et peut-être, comme vous le dites très bien, en tout cas, moi j'ai constaté que l'âge où on se met en couple est beaucoup plus tardif, et les femmes se retrouvent confrontées quand même avec une sorte de pression liée à leur célibat, qui est liée à leur désir d'avoir des enfants. Il faut savoir que l'âge de la première grossesse en France maintenant est à environ 30 ans. On n'arrive pas à faire des enfants après 35 ans. Ça a raccourci cette période-là. Et donc, les filles sont un peu sous pression. Donc, peut-être que, je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal, mais en tout cas, en France, c'est une pression importante.
Mamadou Mbodj, est-ce qu'on vous consulte pour ces difficultés à rencontrer l'âme sœur, à être heureux en amour?
Ben oui, disons que les gens, après avoir fait tous les circuits, parce qu'on vous dit que tout ce qui peut vous arriver de bon ou de bon et de bien ne peut pas se faire naturellement. Il faut aller l'aider. Et par exemple, des femmes vous disent que le prince charmant, il est trop paresseux, trop complexe, et qu'il ne faut pas l'attendre. Au risque de l'attendre en vain, il faut le motiver. Une jeune patiente me disait qu'il faut le débrouiller, en fait, provoquer son avènement. Elles vous disent donc qu'à défaut du grand amour, elles se contenteraient bien d'un compagnon, un partenaire sérieux, respectueux, aimable et fiable, et qui fasse attention à elles. Elles ne comprennent pas qu'elles ne puissent pas avoir ces choses après avoir revu à la baisse finalement leurs prétentions.
Mais c'est d'accord peut-être ça le grand amour.
C'est donc que ces gens vont dans les circuits religieux pour débrouiller ce prince charmant, et à force d'attendre, ben, finissent par se rendre chez le psychologue pour essayer de comprendre. Parce que souvent, devant les difficultés aussi, la persistance du célibat, il y a des figures socioculturelles qui sont invoquées, comme le maraboutage, qu'elle serait victime d'un maraboutage, ou tout simplement victime de la jalousie de l'amant, comment on dit, l'esprit amant, d'accord ? L'esprit amant qui non seulement prend possession d'elle régulièrement, mais est un esprit jaloux qui ne tolérerait pas qu'un homme vienne se marier avec elle. Ce qui fait donc que tout, devant les fiançailles rompues avant terme, devant les mariages qui ne durent pas, ou devant le célibat persistant, beaucoup de femmes vont consulter, et à force d'entendre parler de l'esprit, l'amant-esprit, ou en tout cas d'un maraboutage, Et après avoir passé du temps et dépensé beaucoup d'argent dans les circuits magico-religieux, souvent, le psychologue est là, non pas comme une alternative, mais une consultation parallèle, si vous voulez, au circuit magico-religieux, et où on va dire un peu sa détresse, son désarroi, son désespoir.
Vous arrivez un peu au bout du circuit. Fabienne Kramer, vous avez envie de réagir.
Oui. Je pense que c'est pas très différent de ce que moi je peux rencontrer, c'est-à-dire que on sent quand même qu'il y a une sorte de décalage dans les attentes entre les femmes et les hommes. Les femmes, c'est lié au temps, je crois. C'est parce qu'on sort beaucoup plus doucement de l'enfance, on prend beaucoup plus de temps, et en particulier les hommes ont de moins en moins envie de s'engager rapidement, et donc on se retrouve avec ce que je disais, le fait que les femmes à 30 ans elles commencent à avoir la pression de la grossesse et se retrouvent, c'est une impasse de temps. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même sentiment. Et quand il y a des valeurs religieuses, ça peut aider à avoir quand même un sens, à trouver un sens dans l'engagement et la relation à deux. Moi, je rencontre plus de gens qui sont peut-être beaucoup plus laïcs, je dirais. Mais justement, il y a un problème de valeurs. On peut de réussir à trouver du sens dans le couple sans pour autant que ça soit pour des causes religieuses. Et il faudrait peut-être qu'on redonne au couple du sens tel qu'il soit.
Religion par religion. Mamadou Mbodj, juste une dernière question. En quoi un psy comme vous, et je poserai la même question d'ailleurs à Fabienne Kramer, en quoi un psy comme vous peut aider? Quels sont les conseils que vous êtes amené à donner?
Le fait de comprendre que l'amour, d'abord, pour ceux qui finissent ou celles qui finissent par ne plus quoi, que c'est quand même le moteur de la vie quelque part.
Oui.
Et y renoncer, c'est comme vouloir s'installer dans une vie sans ressort, si vous voulez, sans émotion, en fait, une sorte de mort sociale.
Oui.
D'accord? Le faire comprendre qu'une vie à l'abri de la monotonie, de l'ennui, du marasme est possible, si vous voulez, que l'amour, c'est comme le couple, ce sont des représentations auxquelles on devrait parvenir à donner corps, mais qu'il faudrait se préoccuper souvent moins de ce qu'on attend de l'autre et prêter un peu plus attention à ce que l'autre attend de nous, si vous voulez. Oui. Si on prend par exemple le cas des hommes, beaucoup d'hommes recherchent un peu une femme aux multiples dimensions, car chez une même femme, ils recherchent à la fois une épouse, une mère pour eux, une mère pour leurs enfants, une amante, une maîtresse, une complice, une amie, une copine, une sœur. Quelqu'un qui soit
c'est le corollaire
du
prince charmant.
Ben oui.
Voilà.
C'est les aimer toutes.
Seulement, la société leur offre aussi des soupapes parce que comme ils réalisent finalement qu'ils ne peuvent pas trouver tous ces aspects chez une même femme, la polygamie reste finalement un recours et c'est une quête sans fin.
Ouais.
Voilà.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Mamadou Mbodj, parce que ça rejoint vraiment ce que j'ai lu dans votre livre, Dr. Fabienne Kramer.
Je suis absolument d'accord avec vous. C'est ce que disait Lacan. Lacan disait, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est que les hommes et les femmes, par essence, je dirais, n'envisagent pas la relation de la même façon. La femme attend un homme qui lui apporterait tout, qui résoudrait tout. Et l'homme a l'impression qu'il aurait besoin de toutes les femmes pour réussir à faire celle qu'il serait la sienne. Donc l'un comme l'autre, il faut qu'on retrouve exactement comme vous le dites, le sens d'aimer, de se dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, c'est le moteur de la vie et qu'une vie sans amour, c'est, j'aime beaucoup votre terme, une vie sans ressort. Et c'est absolument... moi, je compare à un repas, c'est beaucoup moins élégant que ce que vous avez dit, mais en fait... accepter de n'être qu'amoureux, c'est ne consommer que l'entrée. Mais le plat de résistance et le dessert,
ça peut être intéressant aussi
sur le gâteau. C'est plus qu'intéressant, c'est même l'essence de la vie et c'est absolument nécessaire. Donc ça nécessite en effet de renoncer à des schémas. Pour l'homme, c'est se consacrer à une correctement en se disant en effet qu'il renonce à toutes les autres. Et pour une femme, c'est accepter d'aimer quelqu'un qui n'est pas la personne qu'on a mis sur un piédestal, quelqu'un de parfait et qui comble tout. Et ça nécessite, comme vous l'avez dit extrêmement bien, de d'abord s'interroger sur soi avant d'en attendre trop de l'autre.
Merci beaucoup, Mamadou Mbodj, d'être intervenu. On a Florent qui nous appelle de Conakry en Guinée. Florent, bonjour. Non, on a perdu Florent. Et est-ce qu'on a Yannick de Douala au Cameroun? Non, c'est pas grave. J'ai une autre question à vous poser. Vous insistez aussi sur la question de la fidélité, Fabienne Kramer, en disant, mais en fait, vous vous posez la question de savoir si elle est désuète ou pas.
Ben, je me pose la question parce que j'ai posé aux jeunes personnes que j'avais. D'abord, j'étais très surpris du nombre de partenaires sexuels qu'ils avaient déjà eu à 30 ans. Certains garçons m'ont raconté qu'ils avaient eu tellement de partenaires sexuels qu'à 30 ans, ils avaient déjà connu des grosses pannes de désir. Donc, je me suis un peu interrogée. Et quand je leur parlais de couple, parce que aujourd'hui, quand vous décidez de vous mettre en couple à 30 ans, vous pourriez penser que c'est pour 60 ans. Donc, le désir va être pas un problème, mais va être quand même
une question qui va se poser.
Une question dont il va, et qu'il faut évoquer. Et donc, je leur demandais, est-ce que vous envisagez d'avoir des relations, de tromper, etc. Et quasiment tous avaient l'air de dire que c'était presque un passage obligatoire. Certains pensaient à des techniques plutôt libertines, etc. pour trouver ça comme une solution. Donc je me suis posé quand même la question de la fidélité, parce que par ailleurs j'aurais dit, est-ce que la fidélité est essentielle? Tout le monde m'a dit oui. Alors reparadoxe.
C'était un peu l'inverse, oui. C'est ça.
Reparadoxe. C'était comme si aujourd'hui à 30 ans ils se disaient qu'ils seraient incapables de supporter quelqu'un qui est infidèle, mais qu'ils espéraient qu'à 45-50 ans, d'un seul coup, quelque chose se serait passé dans leur tête pour que ça soit plus supportable. Et je crois que la fidélité est très importante, très difficile peut-être sur la durée à maintenir, mais reste une valeur de base. Parce que s'engager avec quelqu'un, c'est s'engager dans un acte de responsabilité, et c'est aussi faire appel à sa loyauté. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire il faut, je crois, être fidèle au couple que l'on a construit, pas tant fidèle à soi-même, parce que les gens, quand ils trompent, ils disent c'est parce que moi j'allais pas bien, donc ils sont fidèles à eux-mêmes, quoi. En gros, ils sont pas fidèles à l'autre, mais ils sont fidèles à eux-mêmes. Je crois que être fidèle à soi-même, c'est une chose, être fidèle à l'autre, c'est autre chose, mais ce qui compte quand on fait couple, je dirais, c'est d'être fidèle au couple que l'on a créé.
On a retrouvé Florent qui nous appelle de Conakry en Guinée. Florent, bonjour, on vous écoute.
Bonjour Claire.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok. Moi, je suis un jeune fiancé. Il y a de cela 10 ans. Mais au début, ça n'allait pas à cause des petits problèmes avec ma fiancée, parce que vraiment, elle voulait que je l'appelle chaque fois, ou l'appelle un SMS, ou bien on se voit chaque fois. Mais maintenant, ça va vraiment. Grâce à la communication et le respect mutuel, aujourd'hui, ça va.
Donc il a fallu du temps pour s'accorder, docteur Fabienne Kramer.
Oui, c'est vrai que vous décrivez très bien le fait que les filles sont souvent un peu pressantes, et avec les nouvelles technologies, elles ont tendance, parce que les filles espionnent plus les garçons que l'inverse, donc c'est une façon de pister l'autre, quoi. Donc on a besoin d'un contact.
T'es où?
On a besoin du contact tout le temps, elles auraient besoin, etc. Et vous le dites très très bien aussi, c'est que au bout d'un moment, ce qui compte, c'est le respect. Vous avez parlé de respect. Moi, je pense qu'un l'équilibre du couple, je repose sur quatre piliers que je défends, qui sont et que je regroupe sous le mot care, qui veut dire le soin de l'autre, qui sont la complexité, c'est un lapsus très intéressant, la complicité, l'amour, le respect et l'engagement. Et il faut de ces quatre piliers-là pour faire un couple durable. Et donc le respect, c'est très très important.
Et apprendre à bien connaître l'autre. Merci beaucoup Florent. On a Paul qui nous appelle de Mbujimayi, en République démocratique du Congo. Paul, bonjour.
Bonjour.
Je sais que vous attendez depuis un moment, Paul, on vous écoute.
Oh oui, j'avais une préoccupation. On ne pourrait pas s'y arrêter, avoir un remède pour une personne qui a vécu une déception à un moment et qui a du mal à relancer une fois de plus. Alors, l'aventure amoureuse, quoi.
Oui, c'est ça, une déception amoureuse. Comment finalement derrière refaire confiance quand on a l'impression que on a été un peu abusé? Ça, c'est une question qui revient souvent dans les couples qui se reforment.
Oui, la difficulté. Oui, c'est sûr. Déjà, c'est pour ça que tout à l'heure on évoquait les ex, on disait il faut tourner la page. Donc ça, c'est une bonne chose. Et surtout retrouver confiance à la vie, c'est exactement c'est se dire c'est ne pas faire pâtir à la suivante des problèmes qu'on a connus avec avec la précédente. Et quelque part, ça nécessite de bien penser ses propres plaies et de retrouver, d'y croire. Moi, je crois que l'amour, c'est une quête infinie. Il faut jamais s'arrêter de chercher l'amour. Et il faut s'y arrêter que le jour où on l'a trouvé.
On l'a trouvé, oui.
Mais y renoncer, c'est ce que nous disait votre psychologue de Dakar. Excusez-moi,
Mamadou Mbodje.
Voilà. Renoncer, c'est quelque part un petit peu mortifère, parce que le sens de la vie, c'est de trouver l'amour. Et donc, c'est pas parce que la première, ça ne s'est pas bien passé ou que vous en avez gardé des souffrances, que la seconde, ce sera pas merveilleux. Donc, il faut reprendre le risque, et en effet, reprendre le risque de souffrir, peut-être.
Je vous lis juste un message de Sam qui nous dit « J'ai peur d'être amoureux, ça rend aveugle ». Juste oui, une dernière question exact, avant de parler nutrition. Docteur Fabienne Kramer, vous finissez votre livre en insistant beaucoup sur les notions de lenteur, en disant il va peut-être falloir réapprendre à vivre un peu plus calmement.
Oui. Oui, je crois qu'il faut laisser au couple le temps de se déployer. Et ça, c'est valable à toutes les étapes. Il faut laisser à la rencontre le temps de se déployer, prendre le temps. Il faut laisser à l'amour le temps de se déployer, donc à l'attachement de se créer. Et j'irais même jusqu'à dire que dans la rupture, il faut aussi donner du temps à la rupture pour lui laisser le temps de se déployer. Ça me semble essentiel.
Et on va terminer en parlant nutrition avec Stéphane Besançon. Et d'ailleurs, ça va vous intéresser parce que vous vous intéressez aussi aux questions de nutrition.
Oui, je suis psy-référente sur un site de nutrition.
Justement. Donc vous êtes Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Voilà, vous êtes directeur général de l'association de l'ONG Santé Diabète qui est basée à Bamako au Mali. Et alors la question d'aujourd'hui c'est je ne sais pas forcément comment manger moins gras.
Oui, alors aujourd'hui on va s'attaquer à une question quand on parle nutrition qui revient beaucoup, c'est les graisses ou les lipides. On sait qu'elles jouent un rôle important pour l'organisme, hein, qu'elles sont fournisseurs d'énergie et constituent les membranes des cellules, que leur consommation doit être contrôlée car en effet, on sait que chaque gramme ingurgité apporte deux fois plus de kilocalories que les sucres, qu'on appelle aussi les glucides ou alors que les protéines. Et on sait que les excès sont massivement stockés, non éliminés et qui provoquent un renforcement du tissu gras et une prise de poids qui est néfaste pour la santé. On sait que le surpoids et l'obésité augmentent considérablement aujourd'hui les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires.
Mais Stéphane, comment est-ce qu'on reconnaît les graisses dans son alimentation en dehors de l'huile, où ça je vois bien que c'est de la graisse?
Oui, alors ça c'est le gros problème parce qu'il existe deux types de graisses qu'on appellera les graisses visibles, celles que vous venez de dire, les graisses qu'on voit tout de suite, qu'on ajoute, et puis les graisses cachées. Donc les graisses visibles, c'est celles qui sont ajoutées directement dans le plat. On principalement les huiles comme l'huile de palme, l'arachide, l'huile de tournesol ou de coton, mais aussi ça peut être la margarine, le beurre ou le beurre de karité. Il faut savoir que ces huiles ou ces graisses ou ces beurres apportent toute la même quantité d'énergie. Ensuite, le deuxième problème, c'est d'identifier les graisses qu'on appelle cachées, qui sont par définition moins visibles et qui sont beaucoup plus difficilement gérables pour la personne qui veut contrôler sa consommation. Elles peuvent être présentes naturellement dans les aliments ou être ajoutées lors de leur fabrication. Et on les retrouve aujourd'hui dans presque tous les groupes d'aliments.
Alors justement, quels sont les aliments qui sont riches en graisses cachées dans notre alimentation ?
Alors, aujourd'hui, on peut citer les arachides. Beaucoup de gens ne savent pas que l'arachide est un aliment qui est très gras. Les bananes plantains frites, les avocats, les œufs, la viande rouge, la noix de coco, le lait concentré, la mayonnaise et les fromages. Alors, pour les fromages, il y a ce qu'on appellerait un truc qui est de savoir que plus leur pâte est dure, plus ils sont riches en graisse. Mmh. Il faut faire aussi attention aux plats préparés hors du domicile, qui peuvent être souvent très riches en graisse. On prend souvent l'exemple d'un sandwich qui va être composé de pain, viande, mayonnaise et frites. Celui-ci contient pratiquement la quantité journalière de graisse à ingurgiter. Alors, pour aider les auditeurs, on peut utiliser un repère de consommation avec la consommation maximum de graisse journalière, qu'elle soit cachée ou qu'elle soit visible. Il suffit de garder en mémoire que la consommation journalière doit être de 9 cuillères à soupe de graisse pour un homme et 7 cuillères à soupe pour une femme, qu'on soit sur les graisses cachées ou les graisses visibles. Pour des gens qui ont une activité physique normale, à savoir un minimum de 30 minutes d'activité physique 3 fois par semaine. Si on n'a pas d'activité physique ou peu d'activité physique, qu'on soit un homme ou une femme, il faudra limiter la consommation de graisse à 6 cuillères à soupe par jour.
Et alors, quels sont les comportements que doivent retenir nos auditeurs ?
Alors, au-delà des règles quantitatives, c'est ce qu'on vient d'évoquer tout de suite, les auditeurs doivent garder en mémoire quelques règles simples. D'abord, il faut privilégier les graisses d'origine végétale, les huiles végétales, les margarines. Il faut apprendre à contrôler la quantité d'huile ajoutée dans les plats. C'est souvent un problème dans les pays en voie de développement. Il faut compter et on pense qu'il faut ajouter une cuillère à soupe par personne mangeant le plat. Une règle aussi très simple et intéressante, c'est dans les pays où on consomme beaucoup de fritures, c'est penser à les déposer sur un papier absorbant ou un torchon avant de les servir afin de limiter là aussi la consommation des graisses qui vont rester sur la préparation. Il faut faire attention aux graisses cachées en connaissant les groupes d'aliments qui en contiennent. Et si on mange hors du domicile, il faut essayer de réduire ou demander qu'on réduise la quantité de graisse ajoutée lors de la préparation des plats. Et enfin, ce qu'il faut faire très attention, c'est les aliments sucrés comme les croissants, les gâteaux ou les glaces qui sont très sucrés comme on vient de le dire, mais souvent associés à de la graisse cachée.
Et la semaine prochaine, vous allez nous parler du sel. C'est ça ? Autre problème.
C'est le deuxième grand problème quand on parle d'alimentation. La première, c'est les graisses. La deuxième, c'est le sel.
Merci beaucoup, Stéphane Besançon. Et comme d'habitude, on va retrouver votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Il sera également sur le site de Santé Diabète. Fabienne Cramer, vous avez envie de réagir parce que, comme on l'a dit, vous vous occupez aussi de nutrition.
Oui, je travaille sur un site où on est surtout sur le comportement alimentaire. C'est un site qui propose aux gens de perdre du poids. Et je trouve très intéressant, j'ai trouvé extrêmement bien votre rubrique, extrêmement didactique, il y avait tout dedans. Vraiment, c'est fantastique.
C'est bien, bravo Stéphane, vous pouvez continuer. Bravo, c'est un bon début. Merci beaucoup docteur Fabienne Cramer. Je rappelle que vous avez publié Solo No Solo, Quel avenir pour l'amour. C'est un livre qui paraît aux éditions PUF, un livre très intéressant, franchement, sur
Merci
l'amour
beaucoup,
et qui
Claire.
Intéresse toutes les générations. Demain, on parlera de la réforme de la santé en France. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonne semaine, on se retrouve demain.